La chapelle est le dernier élément du prieuré Sainte-Anne de Roar implanté au XIIIe siècle par les chanoines de Saint-Augustin de l'abbaye Sainte-Marie de Pornic. Les bâtiments du prieuré étaient modestes, une chapelle, une maison, un jardin, une métairie. À partir du Moyen Âge jusqu'à la Révolution, une chapelle va rester en place pour respecter l'obligation imposée au prieuré de célébrer une messe hebdomadaire à Roar. En 1667, une cloche est installée, il n'y en avait pas jusqu'à cette date. C'était une évolution importante. Sans doute la construction d'un nouvel édifice plus imposant. Moins de 40 ans plus tard, la chapelle est gravement endommagée par un ouragan considérable. Elle est restaurée en 1707. Même si les dégâts ont été très sérieux, les murs ont dû être, en grande partie, préservés. En 2010, M. Forest, architecte du patrimoine, a daté la maçonnerie du XVIIe siècle. Les travaux importants effectués en 1667 et 1707 confortent cette estimation. On peut donc en conclure que la structure de la nef actuelle est de facture XVIIe. À la Révolution, les biens du prieuré, nationalisés, sont vendus. La chapelle n'a plus d'utilité. Elle est en mauvais état. Pourtant, elle ne sera pas rasée. En 1848, au contraire, elle est restaurée par la famille Le Gland de Roar. Une sacristie est rajoutée et la statue de Sainte-Anne est disposée dans une niche. La cloche n'est pas réinstallée. La porte sud est bouchée. Le toit, les murs, les pavés sont en très bon état, la voûte et l'autel en bois peint sont neufs. Jusqu'en 1963, bien privée, elle servira de lieu de culte paroissial. Des processions sont effectuées depuis le bourg à la Saint-Marc, à la Sainte-Anne et aux Rogations. En 1967, une tempête occasionne de nouveaux dégâts à la toiture. Maintenue longtemps en bon état par des descendants de la famille Le Gland, elle est abandonnée et tombe en ruine. En 2004, un réaménagement foncier est réalisé à Boué. La commune obtient la propriété de la chapelle au titre de patrimoine historique. Les travaux de restauration débutent, effectués par les bénévoles d'une association, les Amis de la chapelle Sainte-Anne de Roar. En 2011, la municipalité dispose du financement nécessaire pour terminer la reconstruction. Des entreprises prennent le relais de l'association sous la direction d'un architecte du patrimoine. Depuis 2012, l'ancienne chapelle et le site de Roar sont utilisés comme lieu touristique et culturel. On peut remarquer la porte sud réouverte, la voûte bleue reconstituée mais sans les étoiles jaunes traditionnelles, l'ex-voto de Pierre Coquin de l'association, la statue de Sainte-Anne sauvegardée et réinstallée en 2012.
Le prieuré Sainte-Anne de Roar a sans doute été implanté au XIIIe siècle. L'existence du prieuré est avérée depuis 1330. Il dépendait de l'abbaye Sainte-Marie de Pornic tenue par des chanoines de Saint-Augustin. Une charge du prieuré était de célébrer une messe basse chaque semaine à Roar. Il s'agissait d'un prieuré simple et rural. Un prieuré simple remplissait deux fonctions, gérer les possessions de l'abbaye mère et concourir, par sa présence, à l'évangélisation du territoire. Du moins jusqu'au passage en commande. Même si des voyageurs ont pu y trouver une hospitalité accueillante, ce n'était pas l'objectif initial de son implantation à Roar. Pour un prieuré simple comme Roar, le nombre de moines était faible, deux ou trois, voire un seul. Par prieuré rural, il faut comprendre une structure chargée de gérer des biens agricoles situés dans la région proche, à Cordemais, Boué et Savenay. Les biens provenaient de dons effectués par des seigneurs qui voulaient s'assurer de leur salut éternel. Le prieur récoltait une partie des bénéfices. Des fermiers locaux travaillaient pour lui. Outre la chapelle, le prieuré possédait une maison avec jardin, qui servait d'habitation au prieur et une métairie. Une bonne partie des revenus du prieuré était constituée de dîmes, qui étaient des prélèvements sur les récoltes. Le prieuré a d'abord été géré par un prieur régulier, qui suit la règle de l'abbaye. Ensuite, vers la fin du XVIe siècle, le prieuré est passé en commande sous l'autorité d'un prieur séculier, c'est-à-dire qui vit dans le siècle. La commande n'est plus qu'une administration de biens devenue une rente pour le prieur commendataire. Il n'a pas d'obligation de résidence. Certains prieurs ne sont d'ailleurs jamais venus sur place. Il n'y a plus de religieux résidant à Roire. En 1622, on ne parle déjà plus que d'emplacement des anciens logements. Ils étaient donc abandonnés depuis longtemps. Ils se situaient au nord près de la chapelle. Après la commande, un prêtre de Bouée était payé par le prieur pour célébrer la messe hebdomadaire. À noter que Roire ne s'est pas développé en raison de la présence du prieuré. Ils ont vécu en parallèle, en profitant des mêmes avantages, l'accès au fleuve et l'enrochement. La Révolution a mis fin aux bénéfices ecclésiastiques et les biens du prieuré ont été vendus. En 1667, le prieur Jean-Robert installe une cloche à la chapelle de Roire. Il n'y en avait pas jusqu'à cette date. Cette cloche se trouve aujourd'hui dans l'église de Bouée. Elle a sans doute été transférée dans l'église pour remplacer celle qui avait été descendue à la Révolution et fondue en 1793. Bien privée, donc non saisissable, et peut-être déjà mise à l'abri, elle a sans doute été cédée à la paroisse par Cécile Auger, veuve d'un frère de Pichot de Lamabilais, acquéreur des biens du prieuré et assassiné par les Chouans en 1796. Son origine avait été oubliée par les paroissiens. Renommée « cloche du baptême », sa provenance a été redécouverte à l'occasion d'un audit des cloches de l'église Notre-Dame de Bouée en 2006. Pourtant, elle était classée au titre d'objet historique depuis 1909. La base Palissy identifie bien son origine, provenant de l'ancienne chapelle de Roire. Sur la cloche est inscrit « Messire Jean-Robert prieur de Sainte-Anne, de Roire m'a fait fondre, en 1667 ». La cloche était un élément nouveau et important de la reconstruction au XVIIe siècle. À la restauration de 1848, elle n'est pas réinstallée à Roire. Elle a été descendue du clocher de l'église Notre-Dame en 2022 pour être exposée dorénavant comme patrimoine campanaire historique.
La restauration de la chapelle en 1848 est l'œuvre de la famille Le Gland dont le père, laboureur né à Roire, a permis la traversée de la Loire à plus de 1200 Vendéens. À la fin de décembre 1793, les restes de la grande armée catholique et royale furent écrasés à Savenay. Certains rescapés réussirent à échapper aux poursuites de l'armée républicaine. D'après la tradition familiale, ce serait la femme de Jean Le Gland qui aurait promis au ciel de réhabiliter la chapelle si son mari sortait indemne de son aventure. Ce qui est certain, c'est que les Le Gland, devenus propriétaires de l'édifice, ont œuvré pour sa restauration. Mais quand ils secouraient les Vendéens, Jean Le Gland n'habitait plus à Roire, mais au Lavazet depuis 1791 après son mariage. C'était un hameau beaucoup moins fréquenté et surveillé que Roire. Les déplacements des fugitifs étaient donc facilités et plus discrets. Ils devaient embarquer à l'extrémité de l'étier du Bouhardy à l'est de la chapelle. Entre l'étier de Roire et celui de la Coqueraie, loin des habitations. Ces passages ont dû s'étaler sur 2 années environ. Le personnage le plus célèbre sauvé par Jean Le Gland est l'abbé Bernier, curé de Saint-Lô à Angers. Plus tard, l'abbé Bernier sera un élément important dans la négociation du consulat avec le pape, qui s'achève en 1801, par la signature du Concordat. Jean Le Gland était de retour à Roire en août 1800. 40 ans après les faits, il dicta ses souvenirs. Ses descendants ont continué à entretenir la chapelle jusque dans les années 1960.
Thank you.
le village de Roar a pu se développer après les incursions vikings, donc après l'an 1000. L'estuaire de la Loire au Moyen Âge est un espace animé, bordé de nombreux petits ports, traversés, navigués, pêchés, fauchés, pâturés. Il a connu une activité portuaire importante jusqu'au début du XXe siècle. La Loire occupait toute la largeur de l'estuaire à cette époque. C'était comme un golfe parsemé d'îles. Le bras le long du village de Roar était la voie de navigation principale. Les maisons et bâtiments de Roar sont édifiés sur les rochers, y compris la chapelle. L'accès par la terre ferme était souvent difficile et tributaire du niveau des eaux qui recouvraient régulièrement les prairies et les chemins entre le bourg et Roar. Les habitants s'y sentaient parfois comme dans une île. Les relations des gens de la rive nord de la Loire avec leurs voisins du sud sont rares. Roar est un village à vocation agricole doublé d'une activité portuaire. Les îles et les prairies riveraines fournissaient du foin et du roseau de qualité. Outre les paysans que l'on appelait autrefois des laboureurs, il y avait quelques bargers, des pêcheurs, des marins, des aubergistes. Les mêmes personnes cumulaient souvent ces différentes activités au gré des saisons. Roar, dans la seconde moitié du XVIe siècle, a été un port qui a armé au cabotage atlantique, vers l'Espagne. Il devait donc y avoir une proportion importante de marins à cette époque. Après la fin du cabotage atlantique, Roar redevient surtout un village de laboureurs. Le village était très fréquenté par des pêcheurs qui exploitaient les ressources piscicoles de l'estuaire, notamment des étiers qui étaient de véritables nurseries à poissons. Les exploitants des îles embarquaient et débarquaient à Roar leurs troupeaux partant ou revenant des estives. Roar était un village animé, lieu d'échange et de rencontres. Un poste de douane, d'abord privé puis fonctionnarisé à la Révolution, est installé à Roar vers 1760. Un contingent militaire a été détaché à Roar pendant la Révolution. Au début du XIXe siècle, le citoyen nantais René Moiret établit à Roar un chantier naval. Il fut actif quelques années. C'est le seul chantier de construction de bateaux attesté. Roar a connu jusqu'à 3 débits de boissons ou auberges en activité. Une buvette tenue par Marie Legland fut ouverte jusqu'en 1952. À la Révolution, le village de Roar comptait près de 60 habitants. En 1850, les douaniers et leurs familles représentaient presque 20% de la population qui était d'environ 85 personnes. Le poste de douane est supprimé à cette époque. Au XXe siècle, le déclin s'amorce. En 1911, seulement 13 maisons sont habitées, par 39 personnes. Roar compte 31 habitants en 1936 et 20 en 1968. Aujourd'hui, Roar compte 8 habitations et une exploitation agricole.
Au Moyen Âge, après l'an 1000, les invasions vikings sont terminées. Le commerce fluvial et maritime se développe à Nantes et dans l'estuaire. À Roar, le port situé au départ à l'abri d'un étier se rapproche de la Loire, grâce aux rochers sur lesquels les bâtiments sont édifiés. Si l'accès à la Loire a été depuis très longtemps recherché, rien ne prouve que Roar existait comme port important dans l'Antiquité. Encore moins qu'une voie romaine ait pu y accéder. Cette hypothèse aujourd'hui est invalidée, il n'en existe aucune preuve archéologique. C'est la structure rocheuse de Roar qui lui permit également d'être un port d'attache pour des bateaux de commerce maritime. Le bras de navigation principal sur la Loire a longtemps suivi la rive nord le long de Roar, ce qui explique l'importance de la fonction portuaire du village. En raison des rochers, la navigation entre Lavaux et Cordemais est signalée comme dangereuse au XVe siècle. Les naufrages et les noyades étaient fréquents dans l'estuaire. Des corps non identifiés ont été enterrés sur place, mais il n'y a jamais eu de véritable cimetière à Roar. Malgré les difficultés d'accès, le négoce va se développer et Roar, comme d'autres petits ports, va jouer un rôle important dans l'activité fluviale ainsi que dans le commerce maritime. C'est un port de débarquement et d'embarquement de personnes, de bétail, de foin, de sable, de roseaux, de céréales, de bois. Des embarcations fluviales à fond plat, tout, chalands, barges, venaient accoster au gré des marées. Au XVIe siècle, il a été le port d'attache d'une partie de la flotte de commerçants espagnols. Des havres comme Roar fournissaient les moyens de transport et Nantes était le lieu principal de départ ou d'arrivée des marchandises. Des navires de Rohar ont aussi participé à des opérations militaires. En 1573, deux navires furent réquisitionnés et 29 hommes furent enrôlés à Rohar. Au XIXe siècle, deux goélettes à vapeur assuraient la liaison entre Nantes et Saint-Nazaire. Elles desservaient également les petits ports d'estuaires, dont Rohar. Elles stationnaient au large et les passagers transitaient par une barque. Au cours du XIXe siècle, par suite du jeu des forces naturelles, la situation s'est dégradée et le bras de Lavaux s'est peu à peu envasé. Le train et l'aménagement des routes vont précipiter l'abandon de la Loire comme moyen de transport. Les petits ports aux riches passés déclinèrent. Une loi de programmation visant l'aménagement de l'estuaire est lancée en 1903. Elle prévoit d'endiguer la Loire du Pèlerin à Paimbœuf afin de combler les bras secondaires. Le chenal principal de la Loire qui autrefois longeait Rohar est déplacé vers le sud. Rohar, dont les ruines témoignent de l'importance passée mais dont la cale n'est plus utilisée que par quelques embarcations de pêcheurs amateurs et de chasseurs de gibier d'eau, n'est plus qu'un port relique. Seul un étier permet encore d'accéder à la Loire.